Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, merci de nous rejoindre sur VOA Afrique, le monde aujourd'hui. Alexandrine à ce micro, voici le sommaire. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine. De nouvelles manifestations en France au lendemain de la décision du président Macron de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites. Le Burundi déclare une épidémie de polio après avoir détecté ses premiers cas du virus en plus de 3 décennies. 8 cas de poliomyélite de type 2 ont été détectés et nous retrouverons la page des sports et l'économie en cours d'édition. La Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Les précisions avec Eric Manirakiza.
Monsieur Poutine est présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale d'enfants et de transfert illégal de population des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie, a dit la Cour, ajoutant qu'il existait des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est personnellement responsable des crimes susmentionnés. M. Poutine est présumé responsable à la fois directement en commettant les actes pour l'incapacité à exercer un contrôle approprié sur les subordonnés civils et militaires qui ont commis les actes ou ont permis qu'ils soient commis. La CPI qui siège à La Haye a également émis un mandat d'arrêt contre Maria Vova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant, pour des accusations similaires. La diplomatie russe a dénoncé les décisions dénuées de sens et insignifiantes de la Cour pénale internationale. En revanche, la présidence ukrainienne s'est félicitée de l'émission de ce mandat d'arrêt contre le président russe, saluant le fait que la roue de la justice tourne. La Russie n'est pas membre de la CPI et selon les experts, il est peu probable qu'elle remette des suspects. La Cour n'a pas précisé comment elle prévoyait l'exécution des mandats d'arrêt.
Les États-Unis sont un meilleur partenaire du Sahel que la Russie. C'est une déclaration du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. C'était lors d'un entretien avec l'agence France Presse à l'issue de sa visite au Niger. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon le secrétaire d'État, Washington est un partenaire plus fiable dans la lutte contre la pauvreté et la violence djihadiste. Anthony Blinken a reconnu que l'approche du tout militaire des États-Unis et de la France, ex-puissance coloniale dans cette région, n'était pas suffisante. Il faut absolument avoir une approche holistique, globale, dans laquelle la sécurité est absolument nécessaire, mais ne suffit pas, a-t-il dit. Le fait que le Niger, qui est manifestement un des pays les plus pauvres au monde, soit si efficace, souligne selon moi l'importance de choisir cette approche globale, a-t-il ajouté. À l'issue d'une rencontre jeudi avec le président nigérien Mohamed Bazoum, le chef de la diplomatie américaine a annoncé une nouvelle aide humanitaire aux pays du Sahel, dont le Niger, d'un montant de 150 millions de dollars, ce qui porte le total de cette aide à 233 millions de dollars pour 2023. Il a également mis en avant le soutien de Washington à Niamey par le biais d'un programme de réinsertion de djihadistes repentis, d'un projet d'amélioration de l'irrigation et d'une agriculture résiliente au changement climatique.
Toujours dans le Sahel, 10 millions d'enfants menacés par l'insécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger, selon l'UNICEF. Face à l'intensification des conflits dans ces 3 pays, les 10 millions d'enfants ont besoin de toute urgence d'aide humanitaire. Selon l'agence onusienne, la situation est exacerbée par la fermeture de plus de 8300 écoles et les menaces, enlèvements et exécutions des enseignants. Le Parlement angolais approuve l'envoi d'un contingent d'environ 500 soldats en RDC après l'échec d'un énième cessez-le-feu que Luanda avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles. L'objectif de la mission militaire angolaise est de sécuriser les zones où sont stationnés les membres du M23 et de protéger une équipe chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu, selon la présidence angolaise. Le Burundi a déclaré ce vendredi une épidémie de polio après avoir confirmé la présence de 8 poliovirus pour la première fois en 30 ans. L'annonce a été faite par le Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Yakuba Ouedraogo nous en dit plus.
Des cas de poliovirus circulant dérivés d'une souche vaccinale de type 2 ont été détectés chez un enfant de 4 ans et 2 autres qui étaient en contact avec lui dans le district d'Isale, dans l'ouest du Burundi. C'est ce qu'a déclaré l'OMS, ajoutant que 5 échantillons provenant de la surveillance environnementale des eaux usées ont aussi confirmé la présence de ce poliovirus. Selon l'OMS, Le gouvernement burundais, qui a déclaré la détection du virus comme une urgence nationale de santé publique, prévoit de lancer une campagne de vaccination contre la polio pour les enfants âgés de 0 à 7 ans. La poliomyélite est très contagieuse et il est essentiel d'agir rapidement pour protéger les enfants grâce à une vaccination efficace, affirme Machidizo Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. L'Organisation mondiale de la santé soutient que le poliovirus circulant de type 2 est la forme de poliomyélite la plus répandue en Afrique. Elle dit que les épidémies de ce type de poliovirus sont les plus fréquentes dans la région, avec plus de 400 cas signalés dans 14 pays touchés en 2022.
Dans l'actualité également, le cyclone Freddy a fait plus de 400 morts en Afrique australe, dont la grande majorité au Malawi, où le bilan s'est encore aggravé jeudi soir. L'espoir de retrouver les survivants devient de plus en plus mince. Freddy a frappé deux fois en quelques semaines dans la région, tuant sur son passage 73 personnes au Mozambique, 17 à Madagascar et désormais 326 au Malawi, selon un dernier bilan annoncé par la présidence.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La suite de ce journal avec la France, la crise politique s'envenime dans le pays sur fond de grève reconductible. Le gouvernement est visé par plusieurs motions de censure à l'Assemblée nationale au lendemain de son passage en force sur la réforme des retraites, ce qui a décuplé la colère sociale des dernières semaines et déclenché des troubles dans plusieurs régions du pays. Aristide, Jacques Aristide pour Le Point.
Dans la rue, les actions n'arrêtent pas, notamment pour dire non au recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Hier soir, une manifestation de quelques milliers de personnes a dégénéré autour de la place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale française, débouchant sur plus de 300 interpellations. Ce matin, des protestataires sont revenus à Paris pour entraver la circulation sur le boulevard périphérique. La furie se manifeste également via les poubelles, qui ne sont pas ramassées par les éboueurs en grève. Dans la capitale mondiale du tourisme, les ordures continuent de s'amonceler en montagnes malodorantes.
On va crever au boulot, comme on dit, c'est pas possible. On va faire travailler les seniors dans ce pays alors que c'est les jeunes qu'il faut mettre au travail.
Le 49-3 d'hier, même si ça fait partie de la Constitution, c'est un vrai déni de démocratie.
L'article 49-3 de la Constitution, c'est une procédure qui permet de faire adopter un projet de loi sans vote au Parlement, sauf si une motion de censure venait à renverser le gouvernement. Le chef de l'État a donc eu recours à cette arme, sur cette réforme clé de son second quinquennat. Emmanuel Macron maintient vouloir répondre à la dégradation des caisses de retraite et au vieillissement de la population.
Le président chinois Xi Jinping sera à Moscou la semaine prochaine à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Il s'agit de la première visite officielle du dirigeant chinois en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Les précisions de John Linden.
Il s'agira d'un déplacement pour l'amitié et la paix, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. La visite est prévue du 20 au 20 mars. Xi Jinping et Vladimir Poutine auront un échange de vues approfondi sur les relations bilatérales et les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun, a précisé un porte-parole de la diplomatie chinoise. Les deux dirigeants discuteront de l'approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine, notamment sur la scène internationale, a de son côté déclaré dans un communiqué la présidence russe, ajoutant que des documents bilatéraux importants seront signés. L'annonce d'un déplacement en Russie de Xi Jinping intervient au lendemain d'un entretien téléphonique entre ministres chinois et ukrainiens des Affaires étrangères. La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable, a indiqué le ministre chinois à son interlocuteur. Pékin se présente comme partie neutre dans le conflit en Ukraine.
Aux États-Unis, Joe Biden estime que le Congrès doit agir pour sanctionner plus lourdement les dirigeants de banques dont la mauvaise gestion a contribué à la faillite de leurs établissements. Dans un communiqué, le président américain fait valoir que personne n'est au-dessus de la loi et juge qu'il devrait être plus facile pour les régulateurs de sanctionner financièrement des banquiers. La Terre n'a jamais été aussi chaude depuis 125 000 ans. C'est ce qui ressort des rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat des Nations Unies, le GIEC. Les membres sont réunis depuis lundi à Interlaken, en Suisse. Selon le GIEC, les canicules, tempêtes et inondations meurtrières amplifiées par le changement climatique pourraient n'être qu'un avant-goût du monde que les énergies fossiles brûlées par l'humanité nous préparent. C'était l'essentiel de l'actualité du jour sur VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Le Nigeria a lancé un fonds de 672 millions de dollars pour les jeunes entrepreneurs de 15 à 35 ans dans le cadre du Programme national de développement des entreprises du domaine des technologies numériques et des industries créatives. Le gouvernement apportera 45 millions de dollars. La Banque africaine de développement, 170 millions. L'Agence française de développement, 116 millions. Et la Banque islamique de développement, 70 millions. Des investisseurs privés contribueront à hauteur de 271 millions de dollars. Selon un rapport de l'Agence des Nations Unies pour le commerce et le développement, l'industrie des technologies vertes pèsera des milliers de milliards de dollars d'ici 2030. Mais la CNUSED estime que l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique subsaharienne sont désavantagées. Les exportations de technologies vertes des pays développés sont passées de 60 à 156 milliards entre 2018 et 2021, tandis que la part des pays en développement dans les exportations mondiales est passé de 48% à moins de 33%.
Yacouba Ouedraogo pour la page des sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
Les playoffs de la Basketball Africa League se rapprochent pour certaines équipes.
Oui, c'est le cas des champions en titre tunisiens de l'US Monastir qui affrontent les Ivoiriens d'Abidjan Basketball Club. En cas de victoire, l'US Monastir se qualifiera pour les playoffs. Les Ivoiriens, eux, ont besoin de gagner pour augmenter leurs chances de voir les playoffs. Toujours ce soir, on aura droit à un derby ouest africain entre le stade malien de Bamako et l'AS Douane du Sénégal. Mal en point dans cette compétition qu'elle accueille. Jusqu'ici, un seul club est sûr de prendre part aux playoffs. Il s'agit de Rwanda Energy Group, qui a décroché mercredi sa troisième victoire d'affilée dans la phase de poule de cette conférence Sahara.
Basketball toujours, ici en NBA, Denver valide son ticket pour les playoffs.
Les Nuggets, guidés par leur double MVP Nikola Jokic, 30 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, ont battu Détroit 119-100. Denver assure ainsi sa présence en playoffs. Derrière Denver se trouve Sacramento qui a de nouveau chippé la deuxième place à Memphis à la faveur de son succès sur Brooklyn 101-96. Avec cette 42e victoire contre 27 défaites, les Kings sont assurés de finir leur saison en positif, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2006, année de leur dernière apparition en playoff. Phoenix, quatrième pour sa part, a mis un terme à une série de trois revers en s'imposant 116-113 face à Orlando. À l'Est, la surprise est venue d'Indianapolis où Milwaukee, leader déjà qualifié, a chuté à Indiana 139-123. Ce succès permet aux Pacers de croire encore au barrage dont ils sont encore aux portes 11e, mais à portée de Washington 10e et de Toronto 9e, qui a disposé d'Oklahoma City 128-111.
Début sur le continent des matchs de la 5e journée de la Ligue des Champions, CAF.
L'Espérance de Tunis et Almerek du Soudan se sont neutralisés un but partout. Avec 10 points, les Tunisiens gardent tout de même la première place de la poule D. Ils sont suivis par les Algériens du CR Belouizdad, 6 points. Ces derniers font face ce soir aux Égyptiens du Zamalek et voudront consolider leur deuxième place. Almerek est troisième avec 5 points. À suivre toujours ce soir le match entre les deux derniers du groupe B, les Camerounais de Coton Sport de Garoua et les autres Égyptiens d'Al Ahly.
En Europe, les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions sont connues.
Le choc des quarts mettra aux prises Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez et le Bayern Munich du Sénégalais Sadio Mané et du Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting. Il y aura également un choc italien entre Naples, des Nigériens Victor Osimhen et Camerounais Franck Zambo-Anguissa et l'AC Milan. L'autre club italien, l'Inter Milan, jouera le Benfica. Comme l'année dernière au même stade de la compétition, le Real Madrid retrouvera les Blues de Chelsea. Seule différence, le Real recevra l'aller et se rendra à Stamford Bridge pour la manche retour. Les rencontres sont programmées les 11 et 12 avril pour les matchs aller et les 18 et 19 avril pour les matchs retour.
Merci, Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Alexandre Nicolonio, de nouveau avec vous pour la suite de LMA sur VOA Afrique. À présent, place au magazine. Les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, se penchent sur les défis sécuritaires, économiques et financiers de leur sous-région. Ils prennent part à un sommet ce vendredi à Yaoundé, au Cameroun. Sur place, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Le processus d'intégration des pays de la CEMAC fait encore face à de nombreux défis, d'après le président Paul Biya, qu'il a mentionné dans une allocution à l'ouverture du sommet de Yaoundé.
Le bien-être de nos peuples frères passe aussi par une intégration harmonieuse de nos économies nationales à travers la réalisation de nos projets structurants et intégrateurs.
Ce programme s'articule autour de 12 projets intégrateurs prioritaires dans les domaines tels que la production et l'interconnexion des réseaux électriques et des communications, la construction du marché commun ou encore la facilitation du transport et des échanges. Roger Mbarga, spécialiste en intégration régionale.
On est passé à une deuxième phase de projet intégrateur. Il y a déjà 11 qui ont été maturés, qui ont été présentés aux barrières de fonds et où on a collecté plus d'argent qu'on ne voulait. Il a été collecté 3,8 milliards d'euros pour 11 projets intégrateurs à Paris en 2020, alors que la CEMAC est allée chercher 3,4 milliards d'euros. Donc, cette deuxième phase de projet intégrateur, ajoutée à la première phase de projet intégrateur, on se retrouverait donc à 23 projets intégrateurs prioritaires.
Mais la CEMAC n'est pas en marge du contexte international. La sous-région fait face à ce que Daniel Onaondo, président sortant de la commission de la CEMAC, appelle les nouveaux défis.
Les répercussions négatives du conflit entre l'Ukraine et la Russie, à travers la volatilité des cours de pétrole, le renchérissement des produits importés, l'aggravation de l'insécurité alimentaire et le durcissement des conditions financières mondiales.
Le Gabonais indique néanmoins que les perspectives macroéconomiques de la CEMAC sont globalement favorables et la croissance économique devenue positive. Toutefois, la paix et la sécurité dans la CEMAC restent préoccupantes. Paul Biya, le président camerounais.
Les groupes armés internes et transfrontalières qui infestent notre sous-région. Leurs activités sont d'autant plus pernicieuses qu'elles obligent nos États à consentir d'énormes sacrifices.
Le sommet des chefs d'État de Yaoundé va également régler des questions de fonctionnement de la communauté avec des nominations à la tête des institutions et organes spécialisés de la CEMAC. Yaoundé, Emmanuel Julentap, VOA Afrique.
MSF dénonce l'abandon de milliers de migrants expulsés par l'Algérie présents à Assamaka, ville de la région d'Agadez dans le nord du Niger. Entre le 11 janvier et le 3 mars, plus de 4500 personnes en situation de migration sont arrivées à pied à Assamaka. Moins de 15% d'entre elles ont pu bénéficier d'un abri ou d'une protection à leur arrivée. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint au Niger le responsable des programmes de MSF en Afrique de l'Ouest, Boulama Eladji Gori.
La situation à Assamaka, c'est une situation qui nous préoccupe énormément. C'est environ 5000 individus ou 5000 personnes qui sont soit expulsées ou qui sont arrivées à pied à Assamaka et qui sont aujourd'hui entassées autour du centre de santé de Assamaka qui est appuyé par Médecins Sans Frontières. Pour rappel, Médecins Sans Frontières, nous sommes présents dans la région d'Agadez depuis 2017 et nous appuyons plusieurs centres de santé dont celui de Assamaka. Un centre de santé qui est conçu pour 1000 habitants ou 1500 habitants et du coup vous recevez 5000 individus, vous pouvez bien imaginer. Les centres de santé ne pouvaient même pas abriter 15% de cette population. Aujourd'hui, parmi ces populations, il y a des gens qui se retrouvent même sur des zones de déchets ou dans des endroits peu hygiéniques. Et puis, c'est une population qu'il va falloir penser nourrir et abriter et se mettre surtout à l'abri parce que, connaissant bien la région, la température peut atteindre 48 degrés Celsius. Et c'est aussi une opportunité pour nous de non seulement décrire la situation, mais aussi de lancer l'alerte. Et en ce sens, nous lançons un appel aux pays membres de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la majorité de cette population en situation de migration sont ressortissants de pays membres de la CEDEAO.
Vous dénoncez l'absence de la CEDEAO ou l'inaction de la CEDEAO pour venir en aide à ces migrants. Que voudriez-vous que la CEDEAO fasse pour, disons, compléter cette action humanitaire de MSF?
Donc oui, effectivement, nous faisons l'appel aux autorités membres ou bien même aux pays membres de la CEDEAO pour qu'ils puissent également se pencher sur la question et qu'il y ait d'abord une réponse d'urgence et ensuite peut-être traiter la question du point de vue à moyen terme ou à long terme de façon plus durable. Et aussi de contribuer à ce que cette population en situation de migration ait un traitement beaucoup plus humain, beaucoup plus décent, et surtout également pour les personnes qui ont manifesté la volonté de vouloir rentrer chez eux et qu'ils puissent rentrer vraiment en toute sérénité et dans les meilleures conditions que possible.
Il y a aussi cette responsabilité de l'Algérie, n'est-ce pas, le pays qui expulse ces migrants. Est-ce que vous avez essayé de parler aux autorités algériennes? Pourquoi ces autorités ne facilitent pas, disons, un abri transitoire avant les expulsions vers les pays d'origine?
Nous ne sommes pas présents en Algérie. Enfin, nous sommes à la frontière. Nous recevons ces personnes en situation de détresse. Et donc, c'est une question qui est un peu difficile pour nous de répondre. Mais en ce qui concerne la situation humanitaire de ces personnes, il serait quand même très important qu'on puisse lancer cette alerte. Après, il y aurait probablement des acteurs qui sont beaucoup plus spécialisés dans la question, qui pourraient peut-être aller en profondeur sur la question, soit avec l'Algérie ou avec les autres pays les plus concernés.
Boulama El Hadjigori, responsable des programmes de MSF en Afrique de l'Ouest.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souhaité que les litiges nés des résultats contestés de la présidentielle au Nigeria soient réglés dans un cadre légal, alors que le pays s'apprête à organiser les sénatoriales et le vote pour les gouverneurs demain. Le scrutin du 25 février dernier a été marqué par de graves défaillances techniques et de nombreux retards dans la transmission électronique des résultats, provoquant la colère d'une partie des électeurs. Bola Tinubu est le président élu, l'opposition n'ayant pas réussi à provoquer la surprise pour laquelle elle s'est battue, mais celle-ci crie à la fraude électorale. C'est un processus électoral encore contesté devant la justice. On fait le point avec notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
Pour les Nigérians, une chose ne fait aucun doute après le scrutin du 25 février dernier, la mobilisation historique des électeurs. La réaction de Chris Oke, un avocat nigérian.
L'élection qui a eu lieu le 25 février a connu le plus grand taux de participation que j'ai jamais vu depuis que j'ai commencé à voter au Nigeria comme adulte. J'ai vu les jeunes et les vieux avoir ce désir de participer au processus électoral.
Les résultats annoncés donnant pour vainqueur Bola Ahmed Tinubu, le candidat du parti au pouvoir APC, à l'élection présidentielle, ont déclenché des réactions mitigées dans tout le pays. S'il est investi en tant que président du Nigeria le 29 mai prochain, à quoi faudra-t-il s'attendre? Témoignage.
L'élection est venue et est partie. Un gagnant a émergé, un perdant a également émergé. Je pense que nous devrions simplement passer à autre chose et commencer à planifier et à élaborer des stratégies. Au moins, les élections de 2027 sont là. Si vous ne gagnez pas aujourd'hui, vous pouvez gagner demain. Je ne pense pas qu'on ait besoin de verser du sang ou d'avoir de l'animosité entre citoyens. Nous n'en avons même pas besoin.
L'économie nigériane est en difficulté. Le pays a connu deux récessions en 5 ans, en partie à cause de la corruption et des retombées de la pandémie de COVID-19. Les pénuries de liquidités et de carburant ont également provoqué une colère nationale. Quel avenir pour les millions de jeunes électeurs nigériens au cœur brisé qui ont apporté leur soutien au candidat du parti travailliste, Peter Obi? Ce jeune consultant nigérien, un des leaders des manifestations INSAS de 2020, tente de répondre. Suki Odabi.
Nous, en tant que jeunes, nous devons commencer à regarder et à prendre des décisions. Trouver des choses qui peuvent aider notre environnement direct, trouver des idées avec lesquelles travailler. Le Nigeria est peuplé, les transactions se font alors. Ne mettez pas tout votre espoir sur le gouvernement. Alors que nous espérons que le gouvernement mettra en place les moyens pour nous permettre de faire des affaires et des choses qui faciliteront la tâche des jeunes et des entrepreneurs, essayons de commencer à regarder vers l'avenir.
Des élections des gouverneurs et des assemblées d'État cruciales ont lieu ce week-end, après un report d'une semaine, pour raisons logistiques selon la commission électorale. Certains des électeurs qui se sont impliqués en février parce qu'ils souhaitaient un changement n'ont pas caché leur déception après la présidentielle. Beaucoup craignent que cela n'affecte le taux de participation pour les élections de ce week-end. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Les autorités maliennes sévissent contre la consommation de la chicha. Après 6 mois de préavis, les forces de l'ordre ont commencé à faire respecter l'interdiction de la chicha, en procédant, selon elle, à des dizaines d'interpellations dans des clubs de la capitale, et elle a saisi de nombreuses pipes à eau. Davantage avec Blanche Sanou.
Des centres vigoureuses de l'Office central des stupéfiants sur les chicha clubs de Bamako, une cinquantaine d'individus en tôle et un important lot de matériel saisi a rapporté l'OSC sur Facebook. Moussa Fofana est l'un des vendeurs de chicha.
Bon, malgré lui.
Vers 01 mercredi, ils sont venus fermer notre chicha club. Avant de prendre une telle décision, il est important de prévoir quelque chose au préalable pour les victimes. Il y a des gens qui vivent de ça.
Les bars où de jeunes hommes en majorité se délassaient en tirant sur la pipe à eau ont fleuri ces dernières années dans la capitale Bamako. L'annonce inattendue de l'interdiction de la chicha divise les Maliens entre défenseurs de la santé publique et amateurs d'une distraction appréciée par les jeunes. Ousmane Touré est le président de l'association des victimes du tabac.
Il y a beaucoup de chicha clubs là où nous sommes. Et ces chicha clubs, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Qu'ils gagnent parce qu'ils emploient des gens. Mais en termes de mortalité, de maladie, ça, si on prenait ça en compte, nous verrons que franchement, le mieux c'est d'arrêter.
Mankan Fofana, gérant le chicha club, s'interroge sur l'aspect économique ou la reconversion de ces jeunes vendeurs de chicha.
On devrait être averti avant la publication des décrets, nous donner assez de temps. Alors que vous voyez dans la boutique, nous avons envoyé beaucoup de stocks ici. On n'a pas eu le temps de vendre, ni rien. Alors que nous avons financé dedans. Nous venons de terminer les études, on n'avait pas de travail ni rien. Les prix que nous avons investi sur ces produits.
Un décret signé par 6 ministères prévenait que les consommateurs encouraient 1 à 10 jours de prison et une amende de 300 à 10 000 francs CFA. Écoutons Salif Kone, spécialiste du tabac.
Donc, parmi ces jeunes, à peu près 70% ont proprement leur machine à la maison. Ils l'utilisent. Et 50% ont développé une addiction. Et les femmes en consomment plus. Parce qu'il y a 53% de femmes qui consomment la chicha. C'est à nous les médecins, nous les parents de ces enfants, de conjuguer nos efforts aux efforts du gouvernement pour arrêter la consommation de la chicha au Mali.
Un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé mettait en garde en 2017 contre la dangerosité du narguilé, d'une à 10 fois plus nocif que la cigarette et qui ne fait pas l'objet des mêmes campagnes de sensibilisation que le tabac.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans C'est ton genre, super fast, super sonique, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref, les tout dans RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au +1 703 350 37 31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique super rapide. Jobless. Peace Africa.
Are you ready? Êtes-vous prêt à mieux parler l'anglais? Rendez-vous sur VOA Afrique tous les soirs à 21h TU. C'est l'occasion rêvée de revoir le vocabulaire, les expressions courantes, la grammaire et les tournures de phrases.
Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Alexandrine Rolognon à la présentation. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Je remercie la rédaction et l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Et je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.